Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Et merci à la Commission européenne qui m'accueille dans ses studios de Bruxelles. Y a-t-il un pilote aux commandes de la sécurité économique de plus de 450 millions de citoyens européens? Eh bien, des réponses avec mon invité, Denis Redonnet, directeur adjoint de la direction commerce à la Commission européenne, chargé en particulier de la défense commerciale de l'Union européenne. Bonjour Denis Redonnet.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes monsieur sécurité économique à la Commission européenne?
Non, parce que c'est un effort collectif. Il y a beaucoup de gens qui s'occupent de la sécurité économique à la Commission européenne et dans les gouvernements des États membres. À la Commission européenne, moi, je m'occupe du respect des règles lorsqu'on négocie des accords commerciaux. Je m'occupe de l'égalisation des conditions de concurrence. Et oui, je m'occupe aujourd'hui de ce nouvel axe de travail qui est la sécurité économique, où nous devons regarder s'il faut éliminer dans l'économie européenne des risques liés à notre intégration internationale.
Quand vous voyez les États-Unis, pour qui c'est clair, sécurité économique égale sécurité nationale? Quand vous voyez le Japon qui a créé un ministre de la sécurité économique, est-ce qu'il ne faudrait pas à la Commission un commissaire à la sécurité économique?
La question des structures, c'est une chose, et cela sera sans doute considéré par le nouveau collège lorsqu'il prendra ses fonctions sous l'autorité de la nouvelle présidente. Ce qui est clair, c'est qu'il y a besoin de mettre ensemble des actifs, des capacités dans les différents services de la Commission. Au-delà des différents services de la Commission, j'insiste sur le fait que c'est un travail conjoint entre les institutions européennes et les gouvernements nationaux. Parce que la sécurité économique, c'est quelque chose qui est différent de la sécurité nationale, traitée au niveau des États membres, puisque nous avons un grand marché intérieur et notre intégration économique, elle crée et elle repose sur une logique d'efficacité. Mais il faut aussi prendre en compte la dimension risque.
C'est nouveau, hein, le concept de sécurité économique à la Commission européenne. Moi, il y a 3-4 ans, j'entendais absolument pas parler de ça. Hein.
La Commission von der Leyen, a adopté en juin dernier, pour la première fois, une stratégie de sécurité économique sous la forme d'une communication, une sorte de livre blanc de la Commission, qui essaie de cadrer cet exercice à la fois pour ce que fait la Commission et dans la manière dont elle veut travailler avec les autres acteurs.
Alors, j'ai lu ce texte, hein, il n'est pas long, il fait à peine une dizaine de pages. C'est un peu outrancier de l'appeler stratégie. Il n'y a pas de stratégie dans ce texte-là. Ce texte appelle simplement les États membres à partager leurs connaissances, leurs pratiques sur la problématique de la sécurité économique. À quand une vraie stratégie?
Je crois que ça va un peu plus loin que ça. Parce que ce que fait ce texte, ça établit un certain nombre de principes. Premièrement, il y a des piliers. Quand on fait et quand on veut regarder notre sécurité économique, il faut regarder la manière dont on fait la promotion de cette sécurité économique, le renforcement de notre compétitivité, et ça, ça met en œuvre un certain nombre d'outils, notamment des outils de politique industrielle, la protection de nos intérêts, de nos infrastructures, de notre technologie, et ça, ça met en œuvre des instruments de protection économique. Certains sont d'ailleurs des instruments qui rentrent sous le champ, dans le champ de la politique commerciale commune de l'Union, et puis il faut une stratégie plus large de partenariat. Aussi parce que nous ne faisons pas la sécurité économique dans un seul pays ou dans un seul bloc. Nous le faisons en relation avec le reste du monde, y compris avec des partenaires. Donc il y a des éléments de stratégie dans la définition d'axes de travail, dans la définition d'un programme de travail qui a commencé, puisque la stratégie économique a conduit la Commission à entamer maintenant une série d'évaluations de risques. Risques sur les technologies, risques sur les infrastructures, risques sur les chaînes de valeur industrielles et les risques liés à la possibilité pour certains pays tiers d'utiliser des dépendances à des fins de puissance ou de coercition. Ouais. Donc ces exercices d'évaluation du risque sont en cours entre la Commission et les États membres et en parallèle, la Commission a fait un certain nombre de propositions sur des instruments juridiques, des nouveaux instruments juridiques, soit nouveaux, soit renforcement d'instruments juridiques existants, pour parer aux risques.
Donc tout ça devrait aboutir à la création d'une doctrine de sécurité économique en Europe.
Oui, et la doctrine, d'une certaine manière, repose sur des principes simples déjà. Minimiser les risques et maximiser les opportunités. Nous ne nous coupons pas de l'économie internationale, puisque nous bénéficions énormément de notre intégration dans l'économie internationale. Mais lorsqu'il y a des dépendances qui peuvent être utilisées à des fins de coercition, nous devons nous en protéger.
Quel mot vous utilisez pour caractériser ces temps, ces relations économiques depuis 3-4 ans? Est-ce que vous osez utiliser le terme de guerre économique?
Je dirais qu'il y a une dégradation dans l'environnement dans lequel nous conduisons nos relations économiques internationales, c'est vrai. Il y a une forme, parfois même, de brutalisation des relations économiques. Je ne sais pas si on peut dire que c'est la guerre commerciale tous azimuts. Il n'y a pas de guerre commerciale tous azimuts. Mmh. Il y a eu un certain nombre de mesures prises ici et là par des acteurs qui ne sont pas conformes aux règles du droit économique international. Il y a une fragilisation du système des règles, de l'OMC. Et donc, il y a une dégradation de l'environnement dans lequel on opère. Donc, le fait de ne pas être naïf par rapport à ça, c'est voir cette dégradation et s'adapter.
L'Europe a longtemps été naïve sur ces questions-là.
Je ne sais pas si on peut dire ça.
Je pense que les grands commissaires, Thierry Breton, Charles Michel,
je dirais
président.
Je vous dirais, moi, que l'Europe, c'est toujours protégé dans ses relations économiques internationales. Nous avons une politique d'ouverture fondée sur des règles. Nous avons des niveaux de protection qui ont toujours été équivalents à ceux des autres grands acteurs. Mais ce qui serait naïf, c'est de ne pas voir cette dégradation du contexte. C'est-à-dire, effectivement, des tensions géopolitiques qui se traduisent par effet de glissement dans les relations économiques.
Alors c'est vrai qu'il y a eu des textes et que vous avez renforcé ces textes-là. Mais quand il y a des textes, vous ne les appliquez pas, des textes de sécurité économique. Par exemple, le règlement de 96 sur l'extraterritorialité du droit américain qui a fait très mal un certain nombre d'entreprises européennes. Vous n'avez pas appliqué ces textes-là qui interdisent aux entreprises européennes de se plier à une juridiction étrangère. Donc c'est comme en amour. Il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Quelles sont les preuves que l'Union européenne commence à comprendre et à se préparer?
Alors, je crois d'abord que lorsque les instruments existent, nous les utilisons et nous sommes un utilisateur, j'allais dire, raisonnable mais affirmé de nos outils. Si vous prenez la défense commerciale et les instruments classiques de défense commerciale, c'est-à-dire des outils autonomes qui nous permettent d'égaliser les conditions de concurrence lorsque les règles négociés n'y suffisent pas. Nous sommes un utilisateur affirmé de la défense commerciale au sens de l'anti-dumping, oui, l'anti-subvention, éventuellement des mesures de sauvegarde. Nous avons une mesure de sauvegarde sur l'acier, les importations d'acier en Europe. Nous utilisons aujourd'hui plus, probablement qu'avant, parce que les distorsions auxquelles nous faisons face sur le marché intérieur sont très importantes. Confère l'ouverture d'une enquête ex officio sur les importations de véhicules électriques en provenance de la Chine. Nous pensions qu'il est vraisemblable qu'elles sont subventionnées et créent un préjudice. Ensuite, nous avons mis en place de nouveaux instruments, mais qui sont à peine aujourd'hui entrés en vigueur. Un instrument anti-coercition qui est en vigueur depuis la fin de l'année. Un instrument sur la réciprocité des marchés publics qui est en vigueur depuis l'été dernier. Et la Commission vient d'annoncer l'ouverture de la première enquête, également déclenchée de manière ex officio, sur la réciprocité des marchés publics dans le domaine des technologies médicales. Nous avons un nouvel instrument, depuis quelques mois, encore une fois, qui est rentré en vigueur l'été dernier, sur l'égalisation des concurrences lorsque les subventions étrangères créent une distorsion sur le marché intérieur, non pas à travers des importations, mais à travers l'investissement direct à l'étranger dans l'Union. La Commission a lancé des enquêtes sur ces textes.
Admettez que tous ces textes concernent essentiellement un acteur, c'est la Chine. Mais quand un texte concerne un ami, c'est-à-dire les États-Unis, et encore je reviens sur le règlement de 96 qui n'a jamais été appliqué, pourquoi ?
Non, ces textes, ils sont neutres en termes de l'origine, oui, du problème. Ils s'appliquent juridiquement à tout acteur qui créerait ces distorsions de concurrence, si on parle des distorsions de concurrence. Il se trouve que le système capitaliste d'État chinois produit des distorsions très importantes. Mmh. On le voit aujourd'hui avec des risques sur les surcapacités dans une série de secteurs industriels nouveaux qui font que ces instruments vont être regardés à l'aune aussi de ces distorsions.
Mmh. Ce qui a bien marché, faut le reconnaître, c'est le filtrage des investissements étrangers. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous en êtes parfaitement satisfait que ça, c'est assez neuf aussi, hein, ça, 2018 ou 2017 ou 2019. Est-ce que vous en êtes satisfait?
Eh bien, on est satisfait au sens où, effectivement, depuis quelques années maintenant, nous avons un mécanisme entre la Commission et les États membres qui permet de regarder les problématiques liées à la sécurité, à l'ordre public, lorsqu'on a des investissements étrangers, non seulement pour un État membre, mais pour l'ensemble des États membres. Avant, ça n'existait pas. Or, nous avons un marché intérieur intégré. Donc un investissement dans un État membre va avoir des conséquences, par le biais des filiales, par le biais des clients, sur les économies des autres États membres. Donc ça, ça existe. Sommes-nous parfaitement satisfaits? Non. Nous pensons que nous devons renforcer cet instrument. –
Il y avait trois pays qui ne le faisaient pas encore. –
D'abord, il y a une question de savoir si tous les États membres le font, et ils sont tous en train, aujourd'hui, sans exception, d'aller vers l'adoption de législation nationale. Mais nous pensons qu'on peut renforcer ce mécanisme. Alors, comment est-ce qu'on peut et comment est-ce qu'on doit renforcer ce mécanisme? Très simplement, vous l'avez dit, d'abord, il faut qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, c'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble de l'Union puisse procéder à ces mécanismes de filtrage. Deuxièmement, il faut quand même couvrir la totalité des investissements qui peuvent produire des risques. Nous avons un certain nombre de limites dans le texte existant, notamment pour ce qui est de certains investissements intra-communautaires par des acteurs étrangers, qui ne sont pas couverts aujourd'hui, mais qui présentent potentiellement aussi des risques. Et puis, nous devons avoir une meilleure coordination, une meilleure transparence dans la manière dont les États membres travaillent ensemble dans ce mécanisme. Pourquoi ? Ben pour produire petit à petit plus de convergence dans l'Europe, en Europe, sur l'analyse que nous faisons conjointement de ces risques sur notre sécurité économique.
Merci beaucoup, Denis Redonnet, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.